Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Radio Orient, il est 17h, votre rendez-vous de l'information, Nawel El Amouchi. Au sommaire de ce point, actualité à Gaza, 5 journalistes, dont certains qui collaboraient avec Al Jazeera, Reuters et AP, ont été tués ce lundi matin dans des frappes israéliennes sur un hôpital du sud de l'enclave. 20 personnes sont mortes au total, selon la défense civile. L'ONU a dénoncé une absence de réaction internationale choquante. Selon l'organisation, les journalistes et les hôpitaux ne devraient jamais être pris pour cible. En France, le Premier ministre François Bayrou a lancé la rentrée politique ce lundi avec une conférence de presse consacrée au budget de la France et aux 43,8 milliards d'euros d'économies. Il a annoncé qu'il engagerait le 8 septembre prochain la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale qui sera réunie en session extraordinaire autour de la question de la maîtrise des finances. Et enfin, l'ambassadeur américain en France est convoqué ce lundi au ministère des Affaires étrangères après des critiques jugées inacceptables par Paris sur l'absence d'action suffisante contre l'antisémitisme du président Emmanuel Macron. Washington a annoncé soutenir son ambassadeur. Et on débute par l'actualité. À Gaza, 5 journalistes, dont certains qui collaboraient avec Al Jazeera ou encore Reuters, ont été tués ce lundi matin dans des frappes israéliennes sur un hôpital du sud de l'enclave. 20 personnes sont mortes au total, selon la défense civile. Et suite à cette frappe, l'ONU a dénoncé une absence de réaction internationale choquante. Sur la situation au Liban, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est dit prêt à une réduction progressive de la présence de l'armée israélienne dans le pays si Beyrouth concrétise son plan de désarmer le Hezbollah pro-iranien. En Syrie, l'un des principaux chefs spirituels druzes du pays a réclamé la création d'une région séparée pour cette minorité dans le sud du pays où il tente d'unifier les fractions armées locales. Et dans le reste de l'actualité au Proche-Orient, le Conseil de sécurité de l'ONU poursuit ses discussions sur l'avenir de la force de la maintien de paix des Nations Unies dans le sud du Liban alors que les États-Unis restent hostiles à la prolongation d'un an voulue par la France et Beyrouth. Et les présidents russes et iraniens ont discuté du programme nucléaire de Téhéran selon le Kremlin, et ceci à la veille des pourparlers qui auront lieu demain à Genève entre l'Iran, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Ces pays signataires de l'accord de 2015 menacent de rétablir des sanctions. Le guide suprême Ali Khamenei a réaffirmé le refus de l'Iran de céder aux États-Unis. Dans le reste de l'actualité internationale, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé ce dimanche, le jour de la fête de l'indépendance de l'Ukraine, qu'une rencontre avec Vladimir Poutine constituait le moyen le plus efficace pour avancer. Moscou lui reproche son insistance à la réclamer coûte que coûte. Et aux États-Unis, la garde nationale américaine, qui est mobilisée à Washington, a commencé à porter des armes ce dimanche dans la capitale, où plus de 2200 effectifs ont été déployés pour lutter contre le crime à la demande de Donald Trump. Les démocrates américains ont accusé le président de fabriquer des crises. Et dans le reste de l'actualité, en France, l'ambassadeur des États-Unis est convoqué ce lundi au ministère des Affaires étrangères après des critiques sur l'absence d'action suffisante du président Emmanuel Macron contre l'antisémitisme qui ont provoqué la colère de Paris. Et selon des données diffusées par le ministère de l'Intérieur ce lundi, 646 actes antisémites ont été enregistrés en France de janvier à juin 2025, soit environ 27% de moins que sur la même période en 2024, mais ces chiffres sont toujours nettement supérieurs à ceux enregistrés de janvier à juin 2023. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous de l'information. Place à présent au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, les dossiers du jour. François Bayrou va demander un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Ce sera le 8 septembre prochain. Il engagera ainsi la responsabilité du gouvernement. Le Premier ministre a lancé la rentrée politique ce lundi avec une conférence de presse consacrée au budget de la France et aux 43,8 milliards d'euros d'économies. On écoute le Premier ministre.
Il faut dès cette rentrée une clarification. faut que les choses soient clarifiées. Y a-t-il ou pas urgence nationale à rééquilibrer nos comptes publics et à échapper, parce que c'est encore possible, à la malédiction du surendettement qui concerne tous ceux qui nous regardent, toutes les Françaises et tous les Français, toutes les familles, et cela en choisissant une trajectoire de retour à la maîtrise de la dette en 4 ans, d'ici à 2029, en dépensant moins et en produisant plus. Voilà la question centrale. La discussion sur les mesures, sur chacune des mesures, c'est autre chose. C'est une étape différente, qu'on peut aborder différemment. Cette discussion, elle viendra après, elle ne peut venir qu'après, avec les partenaires sociaux et pendant les débats budgétaires à l'Assemblée nationale et au Sénat. Se recentrer sur la question essentielle, voilà la clarification. Et cette clarification, pour moi, elle est urgente. Et il y a un lieu pour cette clarification, une institution, c'est le Parlement. Dans un débat ordonné, suivi d'un vote, et non pas dans le désordre des affrontements de rue et des injures. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au président de la République, qu'il a accepté, de convoquer le Parlement en session extraordinaire le lundi 8 septembre, dans 15 jours. J'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement sur une déclaration de politique générale conformément à l'article 49, alinéa 1er de notre Constitution. Cette déclaration de politique générale aura pour objet de poser explicitement la question centrale, savoir s'il y a bien gravité du danger pour la nation, s'il y a urgence ou pas, et choisir la route qui permettra d'échapper à cette malédiction en retrouvant la maîtrise de nos finances et en choisissant de réduire nos déficits et en produisant plus.
C'était le Premier ministre François Bayrou. Et notre second dossier du jour pourrait se résumer en un nombre, 383. C'est le nombre de travailleurs humanitaires tués l'année dernière. L'Organisation des Nations Unies qualifie ces chiffres et l'impunité qui les accompagne d'expression honteuse de l'apathie internationale. On fait le point avec vous, François-Xavier de Calonne.
Oui, et c'est un triste record. C'est une hausse de 31% par rapport à 2023. Des décès alimentés par les conflits incessants, c'est ce que souligne l'ONU. 180 travailleurs humanitaires ont été tués l'année dernière à Gaza. 60 au Soudan. Les Nations Unies soulignent que la plupart de ces meurtres ont été perpétrés par des acteurs étatiques. Et la majorité des personnes tuées sont des employés locaux. Ils ont été attaqués soit en service, soit chez eux. En plus des décès, il y a les blessés. Quelques 308 travailleurs humanitaires ont aussi été blessés. 125 kidnappés et 45 détenus l'an dernier.
Et l'ONU déplore l'absence d'action au niveau international pour stopper cette hémorragie.
Même une seule attaque contre un collègue humanitaire est une attaque contre nous tous et contre ceux que nous servons. Des mots du secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l'ONU. Des attaques de cette ampleur, avec zéro sanction, sont l'expression honteuse de l'inaction et de l'apathie internationale. Propos signé Tom Fletcher. Il demande à ceux qui ont le pouvoir et l'influence qu'ils agissent pour l'humanité, qu'ils protègent les civils et les travailleurs humanitaires et traduisent en justice les auteurs des violences faites contre eux.
Et l'ONU rappelle que les attaques contre des travailleurs ou des opérations humanitaires constituent des violations du droit international humanitaire.
Et oui, l'organisation souligne aussi qu'elle sabote les planches de salut dont dépendent des millions de personnes piégées dans des zones de guerre ou de catastrophes. L'ONU rappelle que ces violences ne sont pas inévitables, des violences qui ne se sont pas atténuées ces derniers mois. Des chiffres provisoires montrent 265 travailleurs humanitaires ont déjà été tués depuis le début 2025, depuis le début de cette année, Nawel.
Merci beaucoup François-Xavier de Calonne. Et gros plan maintenant sur ces chiffres plus qu'alarmants. Parmi les humanitaires les plus touchés figurent ceux de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, paie un lourd tribut selon son porte-parole Jonathan Fowler. Il est au micro de Nadia Bencher.
Malheureusement, la plupart de cette croissance et de ce triste record est à cause de la guerre dans la bande de Gaza. Et nous, parmi la famille des Nations Unies, nous sommes l'agence la plus meurtrie, presque 360 des victimes, des humanitaires tués, ont été des employés de l'UNRWA, donc de l'agence pour laquelle je travaille. Les victimes sont tous et toutes les Palestiniens qui travaillent et ont travaillé depuis des années sur le banc de Gaza pour remplir le mandat d'une agence des Nations Unies. Donc c'est choquant en fait. C'est un lourd prix en fait qui est payé pour la dédication de ces personnes à leur mission humanitaire.
Vous l'avez dit, la plupart des victimes sont des employés locaux. Finalement, ceux qui vivent et travaillent sur place sont les plus exposés.
Tout à fait. Il faut savoir, et je veux souligner que de façon générale, partout dans le monde, le travail humanitaire est fait par les personnes des personnes locales, en fait, c'est-à-dire les habitants des communautés qui sont servies par les humanitaires, en fait. Mais la spécificité de l'UNRWA, c'est que nos internationaux, moi-même, d'autres, nous sommes interdits d'entrer sur le banc de Gaza par décision des autorités israéliennes. Mais ça, c'est quelque chose. Mais notre présence, de toute façon, est minime par rapport à la présence de nos collègues gazaouis, en fait. Et malheureusement, c'est eux qui payent le plus lourd tribut. Et c'est ça qui est tragique, parce que vous avez souligné que la condamnation de l'indifférence, une certaine indifférence ou apathie. Et c'est légitime de poser les questions. S'il s'agit d'une sorte d'apathie sur l'énorme nombre de morts dans le banc de Gaza, de toute façon, des milliers de personnes tuées. Et donc nous n'entendons pas de bruit autour de la mort de ces personnels des Nations Unies.
Alors les attaques contre les humanitaires sont censées être interdites par le droit international. Pourquoi l'impunité est-elle encore la règle ?
Malheureusement, c'est une grande question. Nous assistons effectivement dans la bande de Gaza à un manque de respect pour le droit humanitaire international. Non seulement la vie, le bien-être des humanitaires, non seulement des Nations Unies, mais d'autres, mais aussi le fait que, par exemple, il y a eu à peu près 50 des employés de l'UNRWA qui ont été détenus, et il y en a certains qui ont été torturés pendant qu'ils étaient détenus par les autorités israéliennes. Donc, ça c'est quelque chose qui ne respecte pas du tout le droit humanitaire international. Mais il faut savoir aussi que nos installations, dont nos cliniques, nos écoles, les écoles qui ont été transformées en abris d'urgence pour la population déplacée, nos cliniques auraient été touchées par les frappes, par exemple, ou touchées par les frappes à côté. Il y a aussi l'interdiction d'entrer pour nous de faire entrer l'aide humanitaire, et les graves limitations sur l'entrée de l'aide humanitaire par les autres agences des Nations Unies, les ONG, etc. Donc nous sommes dans un contexte où il y a un manque de respect pour le droit humanitaire international, et effectivement, on peut se poser des questions. La Cour internationale de la justice a demandé que le droit humanitaire international soit respecté dans la bande de Gaza. Et malheureusement, nous ne voyons pas d'actes sur le terrain qui font que cette demande de cette cour soit qui a une mise en œuvre en fait de cette demande.
C'était Jonathan Fowler, le porte-parole de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Merci beaucoup pour votre écoute. Excellente suite des programmes sur Radio Orient.